Voilà.
Je ne sais pas si on a besoin de micro. Si, bon. Soyez les bienvenus, en tout cas. On va invoquer l'Esprit Saint. On a un petit peuple de Dieu ce soir, mais on va invoquer l'Esprit Saint quand même, dans la continuité de ce que nous vivons depuis un an, pratiquement maintenant. Et je vous explique après le pourquoi du comment.
Viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir les cieux ta splendeur de gloire, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser.
Dieu notre Père, envoie ton Esprit Saint illuminer nos cœurs au feu de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Amen.
Amen. Voilà, ce soir, dans la continuité de cette réunion de l'an dernier, le 21 janvier dernier, j'avais voulu vous présenter un peu mon projet pastoral comme votre nouveau curé de l'ensemble paroissial du Christ-Roi, qui est ancré dans toute la dynamique pastorale et théologique spirituelle du Saint-Père, et dans la continuité de Benoît, dans la continuité de Jean-Paul II. Ça s'inscrit depuis longtemps. Et un texte d'Aparecidade en Amérique du Sud, où très ancré sur disciples missionnaires. Et ceux qui entendent notre propre évêque, il en parle maintenant quasiment en permanence, nous invitant à l'être. Et avec les cinq vitamines, j'ai essayé de vous dire que la joie d'un pasteur, c'était un peuple de Dieu qui se convertit et qui progresse spirituellement. S'il n'avance pas, il n'y a pas de joie pour nous pasteurs. On se dit qu'on est stérile, on manque de fécondité. Et j'avais essayé, souvenez-vous, à cette réunion l'an dernier, qu'on avait préparé avec le conseil pastoral, avec les EAP, on avait essayé de vous traduire justement ce désir de conversion pastorale qui passait avant toute chose par une conversion personnelle, en acquérant les cinq vitamines quotidiennes, A, B, C, D, E, dont je vous parle régulièrement, qui me paraissent fondamentales pour essayer de progresser, pour que nous puissions chacun avoir, d'abord être disciple, pour pouvoir être vraiment missionnaire, et nous savons qu'il y a urgence. Je vous en reparle régulièrement, vous le lisez, on a fait le flyer, que chacun vous avez, que vous connaissez par cœur maintenant, Et on avait essayé de voir, dans ce projet que je vous ai proposé, de voir une dimension pastorale et spirituelle, et nous assembler avec les équipes des EAP, avec l'abbé Grégoire, qu'il n'était bon aussi que nous puissions aller plus avant dans la dimension théologique. Et qui mieux qu'un théologien pour venir nous en parler, prêtre laïc, selon le Concile Vatican II, soyons des disciples missionnaires. Alors, on est très heureux avec l'abbé Grégoire d'accueillir l'abbé Emmanuel Cazenave. Je le présente en deux mots, après il rajoutera ce qu'il veut. Il est prêtre diocésain de Toulouse. Quelques années derrière moi, il est quand même un tout petit peu plus jeune que moi. Il n'est pas quinquas encore. Il a été curé de Beauzelle et des villages autour. Il a été curé à Saint-Gaudens, et là c'est du profond rural, dans le Comminges, un autre diocèse. Il a fait quantité de choses, il a même été champion de France en piscine. Ça, c'était ses jeunes années.
Il y a des gens du stade.
Il y a des gens du stade qui le connaissent, qui l'ont connu. J'espère que ce n'est pas pour ça que vous êtes venu, quand même. Et puis, surtout, Emmanuel, maintenant, est professeur à l'Institut catholique de Toulouse, voire ailleurs, il était à un autre endroit de France cette semaine, pour enseigner, professeur de théologie. le maître de conférence depuis 8 jours, officiellement, et puis responsable de quantité de choses. Donc c'est une parole sûre comme docteur en théologie, avec thèse soutenue avec, comme président Monseigneur Morero, un dominicain, et une thèse qui a été soutenue à Rome, même pas à Toulouse, à Rome, donc on ne peut pas faire mieux, je pense, comme théologien. Donc Emmanuel, un immense merci d'être avec nous. Donc on vous propose 3 temps ce soir, 1 temps d'enseignement, et ça va aller donc dans la continuité de ce que je tente, ce que nous tentons avec l'abbé Grégoire de vous proposer comme projet pastoral sur la Sainte Colline. Il y aura, comme bon professeur qui se respecte, eh bien Emmanuel est tout à fait prêt à essuyer les questions que vous aurez. Donc, écoutez, allez-y, on fera un petit temps. Et puis on terminera par l'office des complis de tradition dans le secteur. Merci Emmanuel, tu rajoutes tout ce dont tu veux rajouter.
Merci Monsieur le Curé, merci Hervé, merci Grégoire, merci à vous tous de m'accueillir ce soir. Je me souviens d'une conférence lorsque j'étais curé, j'avais fait venir un big théologien, là c'était vraiment, là on peut le dire. C'était le père Bonino, et il avait commencé comme ça dans la paroisse en disant « Dans la vie, il y a 2 sortes de prêtres. Il y a les prêtres qui savent faire, alors ils sont curés et vicaires en paroisse, puis il y a les prêtres qui ne savent pas faire, et ils disent aux autres comment il faut faire. » Alors c'était un petit peu une boutade. En tout cas, théologien entre guillemets, c'est un grand titre. J'ai l'impression que quand j'entends ça, je sais que je ne sais pas, et les curés et les vicaires savent qu'ils ne savent pas faire. Voilà. Donc comme ça, on est très à l'aise tous. Ce soir, n'empêche, j'ai une petite prétention. C'est, à partir du titre de la conférence, « Laïcs et prêtres, soyons des disciples missionnaires », et cela selon le Concile Vatican II. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous enseigne le Concile Vatican II ? Alors, je vais surtout parler des laïcs, mais toujours je mettrai en regard avec les prêtres, parce que je m'adresse surtout à des laïcs. Les prêtres, ils savent très bien ce que je pense sur les prêtres, et puis ils savent peut-être mieux que moi. En tout cas, il y a une grande question, c'est ce soir que je prétends vous dire qu'est-ce que c'est qu'un laïc. C'est un peu prétentieux pour un prêtre, puisque vous pourriez vous laisser la parole, et puis voilà, on n'en parle plus. Donc ce soir, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un laïc ? Parce qu'il faut savoir qui on est pour savoir comment agir. Si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas agir avec efficacité, on ne sait pas quel but on poursuit. Alors, ce soir, donc, en 2 temps, d'abord, que dit le Concile Vatican II ? Qu'est-ce que c'est qu'un laïc ? Vous ? Qui êtes-vous ? Et deuxième temps, une fois qu'on sait, on va retrousser les manches et on va voir que vous avez du pain sur la planche, selon le Concile. Beaucoup de travail en tant que laïc. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'un laïc ? Vous savez que jusqu'au Concile Vatican II, il y avait un petit problème, c'est qu'on répondait à la question « qu'est-ce qu'un laïc ?» Réponse. Le laïc, c'est celui qui n'est pas clair. C'est L-E-R-C, bien entendu, évidemment. Hein. Vous avez compris. Celui qui n'est pas un clerc. Bon. Loin de moi l'idée de me moquer du passé. Pourquoi ? Parce que l'Église est comme un grand arbre qui pousse et qui désenveloppe au fur et à mesure le trésor qu'elle possède. Donc, vous savez, par exemple, sur la messe, avant le Concile de Trente, on vivait de la messe. On savait avec le cœur ce qu'était la messe, mais il y avait des choses qui n'étaient pas encore définies sur ce qu'est la messe. À savoir, par exemple, sur la consécration et la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, tout n'était pas fixé de manière aussi claire que dans le Concile. Bon. L'Église désenveloppe, explicite, développe le trésor qu'elle possède déjà. Donc, au Concile Vatican II, l'Église a surtout avancé, beaucoup avancé, sur qu'est-ce que c'est qu'un laïc ? Donc le Concile s'ouvre avec, pour seule réponse, par prudence on en reste là pour l'instant, hein, dit l'Église, le laïc c'est celui qui n'est pas un clerc. Bon. Alors comment le Concile va tenter de commencer à répondre à la question ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'un laïc ? Alors pour regarder, pour essayer de voir, de comprendre ce qu'est quelque chose, en général qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut regarder le but que l'on poursuit, la fin, la finalité. C'est un certain Aristote, repris par saint Thomas, qui dit « Quand vous voulez comprendre quelque chose, je résume en gros, regardez ce à quoi cette chose est appelée. » Alors, si vous voulez vous comprendre, si nous voulons nous comprendre, regardons à quoi nous sommes appelés. Alors, c'est très simple. Vous le savez, à quoi nous sommes appelés. Deux citations. Lévitique 19. « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Et repris en saint Matthieu, « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Donc c'est très simple. Nous sommes appelés à être parfaits, c'est-à-dire à être saints. Bon, on a souvent tendance à dire « Oui, d'accord, c'est bien, on l'a entendu plein de fois. Cause toujours, tu m'intéresses. Être saint, c'est pas pour moi, c'est pour la statue qui est dans l'Église. » Bon, je veux bien essayer d'être gentil, mais être saint, il ne faut quand même pas se moquer du monde. Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un ordre de Dieu. Soyez saints. Pourquoi ? Parce que je suis saint. La raison pour laquelle vous êtes appelés à la sainteté, nous sommes appelés à la sainteté, c'est que Dieu est saint. Donc vous ne pouvez pas y échapper. Alors la question ce soir, c'est « Ok, mais les prêtres et les laïcs sont appelés à être saints. » Ça ne me dit toujours pas ce que c'est qu'un laïc, parce que les prêtres sont appelés à être saints aussi, et les religieux aussi. Y a-t-il un chemin particulier pour les laïcs pour être saints ? Le Concile répond oui, il y a un chemin particulier. Tout le monde est appelé à la sainteté, c'est la même sainteté, mais il y a des chemins différents. Alors, grand 1, qu'est-ce que c'est qu'un laïc selon l'Église ? On fait rarement remarquer, quand on veut parler de la sainteté ou de la vie intérieure ou de la vie spirituelle, on fait rarement remarquer que dans l'Évangile, il y a des moments où le Seigneur n'appelle pas à le suivre de près, physiquement, comme il a appelé ses disciples. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette personne qui s'approche de Jésus et qui lui dit « Je veux te suivre, je veux venir avec toi. » Et le Seigneur lui répond « Non. » C'est dur quand même. « Je ne veux pas de toi. » Non, il ne dit pas ça, ça c'est moi qui rajoute. Il dit, retourne chez toi. Il dit, c'est là, en fait, que tu vas me suivre. Il ne lui dit pas, tu ne vas pas me suivre, mais tu vas me suivre autrement. Ou encore, avant, Saint Jean-Baptiste, on vient lui demander, que faut-il faire ? C'est l'appel à la conversion. Alors les gens s'attendent à ce que Saint Jean-Baptiste demande des choses extraordinaires. Lui qui mange des sauterelles dans le désert, oui, bon, est-ce qu'il faut faire ça, des choses extraordinaires ? Non. Il dit, par exemple, aux soldats, contentez-vous de votre solde. C'est tout ? C'est ça la conversion ? C'est pas très enthousiasmant. Faites bien ce que vous avez à faire. Vous voyez, je prends ces exemples-là pour dire, tiens, voilà, nous avons là des exemples de personnes qui sont renvoyées à ce qu'il y a de plus ordinaire. Alors, regardons de plus près. Que dit le Concile Vatican II ? Alors, pour vous faire peur et vous impressionner, ou plutôt pour vous rassurer et vous aider à réfléchir à ce que l'on dit, je vous ai préparé un dossier. Donc ce n'est pas à lire forcément maintenant, mais c'est pour que vous ayez chez vous des notes de ce que le Concile nous dit. Alors, comme j'ai un peu la flemme, je vais vous demander de vous servir et de faire passer votre voisin, comme ça chacun d'entre vous aura ce dossier. Alors, le Concile Vatican II, tout d'abord, nous dit qu'il y a une égalité fondamentale de tous dans l'Église, et vous avez le texte sous les yeux que vous pourrez relire chez vous. Il y a une égalité devant la sainteté, que l'on soit religieux, religieuse, prêtre, laïc, nous sommes à égalité, tous appelés à la sainteté. Et il y a ensuite, alors là on peut être plus ou moins saint, vous savez ce que disait Saint-Thérèse, au ciel il n'y aura pas de jalousie, parce que nous serons tous comme des vases, de tailles différentes, mais comme tous les vases seront remplis à ras-bord, eh bien on ne sera pas en train de jeter sur le voisin en disant « tiens, il y en a plus que moi ». Non. Parce qu'on sera comblés. Donc, il y a une hiérarchie de sainteté, on peut être plus ou moins saint selon l'amour avec lequel on aura répondu à l'appel de Dieu, finalement, dans notre vie. Et il y a une hiérarchie de service, c'est paradoxal, hein, c'est la hiérarchie de l'Église. Les évêques, les prêtres, le pape, les évêques, les prêtres. Donc, deux grandeurs, deux hiérarchies, la hiérarchie ecclésiastique, qui est faite pour servir le sacerdoce baptismal, pour servir, être au service de votre grâce et de votre baptême, et il y a la hiérarchie de sainteté, et là nous sommes tous égaux sur la même ligne de départ. Bref, ce que je veux dire, et que dit le Concile, il n'y a pas de sainteté de seconde zone pour les laïcs. Vous savez, on parlait de la France d'en bas et de la France d'en haut, il n'y a pas une sainteté d'en haut, une sainteté d'en bas. Nous sommes tous et toutes appelés à la même sainteté. Parce que c'est quoi ? Qu'est-ce la sainteté ? Qu'est-ce la sainteté ? C'est être rendu participant de la sainteté de Dieu. Un peu comme quand vous prenez une bûche, vous la jetez dans le feu, elle devient feu, elle est rendue participante de ce feu-là. Ça ne vient pas de vous, dit saint Paul. C'est un don de Dieu. Donc au fur et à mesure que nous nous laissons consommer par le feu du Saint-Esprit, que l'on invoquait avec votre curé tout à l'heure, eh bien nous sommes de plus en plus pris dans ce feu et nous sommes sanctifiés. Pourquoi nous sommes appelés à la sainteté ? C'est dans l'Écriture. Parce que, dit le Seigneur, je suis saint. Et comme nous sommes à son image et à sa ressemblance, ben notre bonheur, c'est d'être de plus en plus ressemblant à lui. Nous passons d'une image floue, si vous voulez, à une image de plus en plus ressemblante. Voilà. Qui se ressemble, s'assemble. Et allons plus loin, dans le christianisme, qui s'assemble, se ressemble. Parce que si je m'unis au Christ dans les sacrements et dans sa parole et dans la prière, alors je vais lui ressembler. Là, il y a les deux. Parce que je lui ressemble, je suis appelé à m'assembler, à m'unir à lui. Et parce que je m'unis à lui, je vais lui ressembler. Qui se ressemble, s'assemble. Qui s'assemble, se ressemble. Là où il y a de l'image et de la ressemblance, il y a un appel à la sainteté. Alors, finalement, cette sainteté, elle ne vient pas de nous. Cette flamme vient d'ailleurs. On ne peut pas l'allumer nous-mêmes. Finalement, c'est quelque chose qui est irréalisable. Les apôtres le disent d'ailleurs, Seigneur, c'est impossible. Et que répond le Seigneur ? C'est impossible à l'homme, mais c'est possible à Dieu. Alors je fais juste une parenthèse, c'est pourquoi tous les chrétiens doivent être 68 ans. Enfin, le curé ne s'attendait pas à ce que je dise ça, il était très embêté, je vois. Voilà. Moi, je suis le plus grand des 68 ans. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé cette écriture sur un mur de Paris, sur un document pendant les événements de mai 68, il était écrit la chose suivante. Soyez réaliste, demandez l'impossible. Ben, le chrétien, c'est ça. Il est réaliste, il demande l'impossible. Il demande d'être sanctifié, d'être divinisé. Voilà. Donc soyez réaliste. Alors, je ne sais pas si c'est Jaïsmar, Sauvageau ou Cohn-Bendit qui l'a écrit, mais c'est la parenthèse est terminée. Voilà. Donc soyez réaliste, demandez l'impossible dans votre prière, demandez la grâce de Dieu, demandez la sainteté. Bon, une fois qu'on a dit ça, j'ai toujours pas répondu à la question, hein. C'est quoi des laïcs par rapport à des prêtres ? On est tous appelés à la sainteté. Disciples missionnaires ensemble, prêtres et laïcs. Alors, allons un peu plus loin dans l'enquête. Parce que c'est quand même difficile de savoir qu'est-ce que c'est spécifiquement un laïc. Positivement, pas simplement le fait de ne pas être prêtre ou religieux, mais positivement. Qu'est-ce qui vous constitue comme laïc ? Qu'est-ce qui fait votre spécificité que nous, on n'a pas ? L'appel à la sainteté ? Non. Nous sommes appelés comme vous, à la sainteté. Qu'est-ce que vous avez que les autres, les prêtres et les religieux n'ont pas ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question ? Vous n'êtes pas des chrétiens au rabais de seconde zone. Hein ? Vous avez quelque chose que nous n'avons pas. Alors, essayons de voir ce que dit le Concile. Premièrement, alors quand le Concile essaye de savoir ce que sont les laïcs, il ne prétend pas dire « Ah ben nous on a tout compris, et dans le passé, on n'avait rien compris. » Non, je vous le redis, l'Église tire toujours du neuf, de l'ancien. Et elle arrive à s'approprier toujours mieux le trésor qu'elle possédait déjà. Et elle se base sur ça, sur des gens comme Saint-Louis ou d'autres. Il y a quand même quelques laïcs qui ont été canonisés dans le passé. Mais il y en aura, j'espère, de plus en plus. Alors, premièrement, la charte du laïc dans le Concile Vatican II. Alors, il faut que vous le sachiez quand même, puisque vous êtes laïc. Lumen Gentium, à partir du numéro 30. Il vous faut lire, méditer, travailler cela. Est-ce que vous la... vous ne me répondez pas, hein, c'est un examen de conscience, mais on n'est pas en train de faire comme au Parti communiste en Chine, un examen de conscience public. Hein. Je vous pose la question, vous répondez en vous-même. Avez-vous déjà lu un numéro de Lumen Gentium à partir de 30? Vous répondez dans votre cœur. Pourtant, c'est votre charte. C'est ce qui vous dit qui vous êtes et à quoi Dieu vous appelle. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Peut-être que vous l'avez fait, là, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce que dit le numéro 30 et puis les autres, numéro 31, 32, etc. Le laïc, alors sous le nom de laïc, on entend ici l'ensemble des chrétiens qui ne sont pas membres de l'ordre sacré de l'État religieux. Pof, c'est reparti pour un tour. Définition négative. Messieurs, dames, vous n'êtes pas des clercs et des religieux. Ça fait 10 fois qu'on vous le dit. Dites, tiens, le concile ne fait pas un grand progrès. Si. Il continue. Lumen Gentium 31. Sous le nom de laïc, on entend tous les fidèles, bon, en dehors de l'ordre sacré, patati patata, comme d'habitude, étant incorporés au Christ par le baptême, très bien, ça les curés ils l'ont aussi, intégrés au peuple de Dieu, très bien, les religieux les curés l'ont aussi, et participant à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, à leur manière, et exerçant pour leur part, dans l'Église et dans le monde, la mission du peuple chrétien. Ah, ça commence à se préciser. Participant à leur manière. Ah, il y a une manière qui est propre à vous, pas à nous. C'est laquelle? On va voir, on continue. Lumen Gentium 31. Alors c'est là que vous avez la réponse et le début de la réponse. Et je vous appelle vraiment à méditer ce texte chez vous, à le reprendre. Concile répond là, qu'est-ce que c'est qui fait le caractère propre du laïc? Le caractère séculier est le caractère propre et particulier des laïcs. Séculier. Le fait d'être dans le siècle, dans le monde, dans ce temps, c'est votre caractère propre. Donc ce n'est pas le caractère propre des religieux, des religieuses et des prêtres. Ah, tiens, on n'avait pas vu ça. Le Concile dit, cependant, bien sûr, il y a des membres de l'ordre sacré, des prêtres, qui peuvent se trouver engagés dans les choses du siècle. Je ne sais pas, par exemple, l'abbé Zobler peut être membre d'un club de pétanque, ou l'abbé Duplessis d'un club de rugby. Ils ont le droit. Mais ça n'est pas leur spécificité première. La vocation propre des laïcs, le Concile continue, écoutez bien, consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Et je lis, écoutez bien, et si vous voulez, vous pouvez lire vous-même, les laïcs vivent au milieu du siècle, c'est-à-dire engagés dans tous les divers devoirs et travaux du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale, dont leur existence est comme tissée, c'est un tissage. À cette place, ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans. Et c'est à eux qu'il revient d'une manière particulière d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles. Voyez les mots? Seuls les laïcs peuvent en propre ordonner directement et immédiatement ce monde à Dieu. Directement, ailleurs dans le Concile vous trouvez ces mots, directement et immédiatement. Et les activités du monde forment comme votre tissage, le tissage que vous travaillez. Et vous êtes en train de féconder ce monde par la grâce de Dieu, ab intra, de l'intérieur, à partir de l'intérieur. Alors, je reprends les mots, immédiat, direct, de l'intérieur, ordonner les choses du monde au royaume des cieux. Ça, le prêtre n'est pas fait pour le faire directement et immédiatement. Et vous avez donc, je vais très loin, une grâce d'état particulière que le prêtre n'aura pas. Et d'ailleurs, souvent, quand on se mêle de choses qui ne sont pas les nôtres, on fait des catastrophes. Voilà. Alors, ça recouvre un champ immense. Hein. Il y a la politique, il y a la vie ordinaire, il y a l'éducation de vos enfants, il y a la vie du quartier, il y a le travail, il y a votre bureau. Vous n'êtes pas à ce moment-là des délégués ou des représentants du curé, pas du tout. Vous êtes à l'intérieur, immédiatement, directement, et vous êtes en train d'ordonner ce monde. Ce qui est nouveau, c'est que la matière de votre sanctification, c'est ce monde. C'est amusant parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Luc, et vous savez que dans l'évangile qu'on a lu aujourd'hui, je souhaite une bonne fête s'il y a des Lucs, dans l'évangile qu'on a lu aujourd'hui, on a cela que la référence, donc beaucoup de références à l'Ancien Testament, et notamment la référence à 72 disciples. C'est une référence à l'Ancien Testament, cet épisode, vous savez, Moïse qui a trop de travail, et on lui demande de désigner 70 disciples. 70 qui va instituer, qui vont venir l'aider. Alors ceux-là, ils sont institués. Mais au moment où il les reçoit dans la tente, devant la tente de la rencontre, tout d'un coup, on lui dit qu'il y a deux personnes qui ne sont pas des 70 et qui prophétisent dans le camp. Et Josué veut les faire taire en disant « Mais vous, vous n'avez pas été institués pour ça. » Or, Moïse répond « Ah, si tout le peuple devenait prophète. » Vous voyez, c'est arrivé, tout le peuple est devenu prophète dans le Nouveau Testament. Il y a ceux qui sont institués pour servir votre prophétie, mais vous, vous êtes prophète immédiatement, directement, et à l'intérieur et de l'intérieur du monde. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas la grâce d'état que vous avez. Ça peut nous arriver parfois d'aller, je vous dis, dans un club, moi c'était plutôt club de natation, et j'ai peut-être sanctifié de l'intérieur, c'est facile, parce qu'il y a un bassin, donc c'est plus baptismal, mais j'ai sanctifié peut-être de l'intérieur, mes voisins, mes voisines, etc. Mais ça n'est pas en propre ce qui m'est demandé. Alors faisons le point, pour essayer de comprendre la place de chacun dans l'Église. Et pour faire le point, je prends, je ne sais pas si vous vous souvenez, de ce passage de 1 Corinthiens 9. Saint Paul dit « Regardez les athlètes. » Bon, je parle beaucoup de sport ce soir. « Regardez les athlètes dans les courses du stade. Ils se soumettent à une discipline, je cite de mémoire, sévère. Pourquoi ? Pour remporter une couronne de gloire qui va se faner. Et vous, courez de manière à remporter la couronne qui ne se fane pas, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors, reprenons. On va essayer de donner, de situer la place de chacun dans l'Église à partir de cette phrase de saint Paul. D'abord, les religieux et les religieuses. Ce sont ceux qui courent après la couronne de gloire qui ne se fane pas, la vie éternelle, la sainteté. Et ils courent après elle en faisant quoi ? En renonçant plus ou moins à la couronne de laurier qui se fane, c'est-à-dire aux choses de ce monde. Ils prennent ce qu'on appelle aujourd'hui dans le vocabulaire médical une juste distance par rapport à ça. Plus ou moins de distance. Pas totalement, parce qu'ils seraient morts. Donc ils ne sont pas tout à fait coupés du monde, quand même, les religieux et les religieuses. Mais plus ou moins selon la vocation. C'est vrai que l'ermite en haut de sa colonne, le starrette, là, il est là, vous imaginez, il n'a pas grand-chose du monde. Mais il y a toujours une relation au monde, sinon il serait mort. Bon. Donc il court après la couronne de gloire en renonçant en tout ou partie aux choses du monde. Vous, les laïcs, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne courez pas après la couronne de gloire à la vie éternelle ? Ben, si, bien sûr, évidemment, vous êtes appelés à la sainteté, je l'ai dit au début. Mais à travers, par et dans la couronne de laurier qui va se faner. Vous ne devez pas renoncer aux choses du monde. Elles ne sont pas mauvaises, sales, à rejeter. Il y a une fausse spiritualité qui se répand parfois aujourd'hui qui consisterait à dire « Ah, pour être plus spirituel, il faut que je laisse de côté les choses du monde, parce que c'est pas très spirituel. » Faux. Est-ce qu'on peut être banquier et saint ? Oui. Si on donne beaucoup à la paroisse. Non, je rigole. On peut être banquier et saint, bien entendu. L'argent n'est pas sale. Est-ce qu'on peut être militaire et saint ? Oui. Sinon, Jean-Baptiste, il n'aurait pas dit au militaire qui lui demandait « Qu'est-ce qu'on doit faire pour se convertir à accueillir le royaume ?» Il leur a dit « Contentez-vous de votre solde et faites bien ce que vous avez à faire. » Il n'aura pas dit « Arrêtez d'être militaire. » etc., etc., etc. C'est très important, c'est une vision très, très positive. Les prêtres séculiers, eux, ils sont quoi ? Ils courent à travers, après la couronne de gloire de la vie éternelle, eux aussi, en se mettant au service du sacerdoce baptismal de votre vie spirituelle, à vous qui êtes dans le siècle. Prêtres séculiers au service des laïcs qui sont dans le siècle. voyez, chacun a sa place en fonction de cette phrase de saint Paul Corinthien. Alors, maintenant que l'on voit peut-être un peu mieux la place de chacun et l'appel, abordons la question qui fâche. Quelles sont les conséquences de cet appel à la sainteté dans et par la vie dans le monde? Lumen Gentium 33 nous dit, alors c'est le passage un peu difficile, nous dit deux choses. Votre apostolat, vous les laïcs, d'abord, il est d'abord dans le monde. Et ensuite, il est aussi dans l'Église. Je lis le Concile lui-même. Avant de le lire, je développe un petit peu ce point. Votre apostolat et votre activité dans le monde sont pas moins chrétiens ou ecclésiales que l'apostolat que vous pourriez faire dans un service à l'intérieur de l'Église. Pourquoi ? Parce que dans le monde, vous rendez l'Église présente autrement. Vous êtes les seuls à pouvoir être l'Église dans le monde de cette manière-là. Vous avez là une magnifique et grave responsabilité. Vous devez aller dans le monde et vous n'avez pas à avoir de lettre de mission ou de permission ou de soumission, on pourrait continuer là, les jeux de mots. C'est votre baptême et votre confirmation qui vous envoient. Et quand vous êtes en train de faire de l'apostolat dans le monde, c'est tout autant, ça vient tout autant de Jésus-Christ, et c'est tout autant l'Église qui agit à travers vous. Mais elle agit d'une manière différente de celle que l'on voit visiblement, habituellement, dans des structures paroissiales ou diocésaines. Et cet apostolat est premier pour vous. Je lis Lumen Gentium 33, qui nous dit qu'il y a deux sortes d'apostolat des laïcs. Le premier, l'apostolat des laïcs est une participation à la mission salutaire elle-même de l'Église. À cet apostolat, tous sont destinés par le Seigneur lui-même. Je saute un petit peu quelques lignes. Les laïcs sont appelés tout spécialement, à assurer la présence et l'action de l'Église. Donc vous ne mettez pas l'Église de côté quand vous êtes dans le monde. Dans les lieux et les circonstances où l'Église ne peut devenir autrement que par eux, le sel de la terre. Vous êtes dans des circonstances où seul vous pouvez amener l'Église dans le monde. Et vous faites alors que l'Église devient le sel de la terre. C'est très important, parce que j'entends dire parfois, et ça m'agace un petit peu, que le laïc qui fait son apostolat dans le monde, dans son travail, dans son quartier, etc., bon, c'est bien le Christ qui l'envoie, mais là, c'est pas tout à fait un travail d'Église. Mais comment ? On ne met pas l'Église de côté. C'est bien, on est toujours membre de l'Église. Et quand dans votre bureau, à la pause café, eh bien, vous parlez avec quelqu'un et vous parlez de l'Église et des positions de l'Église et que vous en prenez plein la figure parce que c'est pas facile d'avoir les positions de l'Église dans son bureau, ben c'est bien l'Église qui rejoint autrement ce monde. Donc c'est très important de voir. Et deuxièmement, vous avez aussi la possibilité d'un apostolat à l'intérieur de l'Église. En plus de cet apostolat, poursuit le Concile, qui concerne tous les fidèles, les laïcs peuvent en outre, de diverses manières, être appelés à coopérer plus immédiatement avec l'apostolat de la hiérarchie. Donc, vous voyez, c'est toujours le Christ qui vous envoie, c'est toujours dans l'Église que vous agissez, mais vous avez deux apostolats, celui qui est spécifique à vous, c'est dans le monde, et celui qui est en plus et en outre, c'est dans des structures paroissiales, diocésaines. Alors ça, c'est quelque chose qui fâche toujours, parce que j'aurais l'air de dire, là, les curés n'aiment pas que je dise ça, parce qu'ils disent, tiens, il va nous enlever tout le monde. S'il leur dit, c'est d'abord dans le monde, on ne va plus avoir de catéchistes, on voit qu'il n'est pas curé, hein. On voit qu'il n'est plus curé, là, les Casanaves. Maintenant qu'il n'est plus curé, il se permet de dire aux gens, allez d'abord agir dans le monde, et ce n'est pas d'abord dans la paroisse ou dans le diocèse. Attention, ce serait aller un peu vite en besogne. Je dis avec le Concile Vatican II que ce qui vous est spécifique, c'est d'abord d'être l'Église et le Christ dans le monde. Et ça, ce n'est pas une opinion personnelle. C'est très important de le comprendre. Parce que faute de le comprendre, eh bien, on va errer complètement. Donc, il vous faut d'abord le monde. Et ensuite, et le Concile le stipule, vous pouvez être appelé aussi à un apostolat dans la paroisse ou dans le diocèse. Dans le monde, c'est vous les boss, c'est vous les chefs. Le curé n'a pas à vous dire pour qui il faut voter, il n'a pas à vous dire qu'est-ce qu'il faut faire comme sport, etc. C'est vous les boss. Et quand c'est dans la paroisse, dans le diocèse, c'est l'évêque et le curé, le boss. Il y a une hiérarchie. Il faut savoir où on est. Évidemment, dans les deux cas, on apporte ce qu'on a en spécifique. Mais il faut respecter ses ordres. Voilà. Donc c'est très important qu'il n'y ait pas de cléricalisme. Ce n'est pas le curé qui va dire comment il faut faire le rugby, le club de sport, la municipalité, le travail, etc. Non. Et dans la paroisse, dans le diocèse, c'est le curé qui va gouverner. Donc chacun dans son ordre propre. C'est très important de respecter cela. Sinon, on confond tout et c'est la pagaille. Alors, 2, comment, maintenant qu'on sait à peu près, qu'on voit ce que le Concile dit des laïcs, comment agir dans le monde? Grand 2, les laïcs, disciples missionnaires dans le monde. Maintenant que je vous ai dit, vous n'êtes pas des religieux, vous n'êtes pas des clercs, vous n'êtes pas clercs, vous n'êtes pas prêtres, pas curés. Pour vous dire comment marcher sur le chemin de la sainteté en tant que laïc, je vais commencer par vous dire que vous êtes prêtre. Ah, alors là, vous allez vous dire, Abbé Cazenave, il a dit janté. Bon, je viens de vous dire que le laïc, il n'est pas prêtre, il a sa spécificité, etc. Et donc, il doit marcher sur le chemin qui lui est propre. Comment? Parce que vous êtes effectivement prêtre, prophète et roi par le baptême. Et ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. C'est-à-dire, vous êtes appelé à consacrer le monde. Lumen Gentium 34, les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu par la sainteté de leur vie un culte d'adoration. C'est très fort. Saint Paul dirait, ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Vous voyez, de même qu'un prêtre prend du pain et prononce les paroles de la consécration en disant « Ceci est mon corps » et le pain devient le corps du Christ, et bien de même, vous, quand vous êtes dans le monde, alors vous ne prononcez pas une parole de la consécration, mais vous agissez, vous parlez, vous évangélisez, vous œuvrez votre baptême qui consacre le monde. Si vous prenez quelqu'un qui n'est pas prêtre et qui est plus saint ou plus intelligent que tous les prêtres réunis, il aura beau dire 100 fois d'affilée sur du pain, ceci est mon corps, ça restera du pain. Et bien de même, quelqu'un qui peut être meilleur que vous, plus intelligent, avoir beaucoup d'amitié, etc., mais qui n'est pas baptisé, ne peut pas consacrer le monde à Dieu. Ça choque quand on entend ça, son style. Le français, surtout, est égalitariste. Il aime dire comment, qu'est-ce que vous me dites là? Non, ce que je veux mettre en valeur là-dedans, c'est que le fait de pouvoir consacrer le monde à Dieu, ça ne vient pas de notre génie. C'est un don de Dieu. Et ce don, vous l'avez où? Dans le baptême, dans le sacerdoce baptismal. Sacerdoce, c'est sacer, do, das, dare, c'est donner au sacré, c'est rendre sacré. Vous pouvez unir à Dieu toute l'étoffe de la vie ordinaire parce que vous êtes baptisé et confirmé. Ça ne vient pas de vous, c'est un don gratuit de Dieu. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Vous êtes les prêtres du monde. Vous avez à consacrer le monde. Alors, cela, vous l'avez en Lumen Gentium 34, 35, 36. Je le relis. Je ne le relis pas, je vous ai mis les textes, vous pourrez les méditer chez vous. Bref, nous avons besoin de prêtres pleinement prêtres, et nous avons besoin de laïcs pleinement laïcs. Alors, il faut vous lancer dans l'évangélisation. Et dans l'évangélisation, dans et de la vie ordinaire. Et vous devez le faire parce que vous avez une grâce d'État que nous n'avons pas. Vous seul pouvez le faire, directement. Vous allez me dire, oui, mais on a peur, il faut qu'on soit formé. Là, je relève une remarque du pape François, très importante, extrêmement judicieuse, parce qu'on voit qu'il a le sens pastoral, il a ses formules à lui, très directes. Il dit, il ne faut pas attendre d'être super formé pour être apôtre et évangélisateur. Parce que c'est en évangélisant que l'on finit de se former. Il y a deux raisons à cela, dit le pape. Il y a une raison pratique. Si vous attendez d'être super formé, eh bien vous risquez d'attendre longtemps. Parce que plus on apprend, plus on a envie de se taire. Plus on avance dans la connaissance de Dieu, plus on a envie de dire « il vaut mieux que je me taise ». Donc, vous ne verrez jamais la fin. Ça, c'est comme quelqu'un qui monte dans une bibliothèque, il voit les rayons qui s'ouvrent devant lui, et il dit « bon, j'ai lu un livre, je croyais que je savais tout ». Maintenant que je suis monté à l'étage au-dessus, je vois qu'il y a 10 000 livres. Bon, il se décourage. Alors l'évangélisateur qui se dit « tant que je n'ai pas lu tout le catéchisme, tout le concile, toute la somme de théologie de saint Thomas d'Aquin, vous voulez rire, jamais vous serez apôtre. » Et la deuxième, c'est une raison théologique. Être disciple et être missionnaire, ce ne sont pas deux choses, mais c'est une seule et même chose qui a deux dimensions. Et c'est comme une sphère. Ce ne sont pas deux sphères, mais c'est une sphère à trois dimensions. Eh bien, être disciple et être missionnaire, c'est tout un. C'est un peu comme si vous disiez, il y a le poumon et il y a l'oxygène. Je vais attendre que le poumon soit parfaitement formé pour commencer à le faire respirer. C'est un non-sens. Si le poumon ne respire pas, il meurt. S'il meurt, il se décompose, il n'est plus un poumon. Donc ça va ensemble. Évangéliser, missionnaire. Et avoir une vie intérieure, écouter le Seigneur, sa parole, et la laisser nous former et nous transformer, cela est tout un. Vous ne pouvez pas attendre. Il n'y a pas une période de la vie pour inspirer, pendant quelques années, et puis une période pour la vie, de la vie pour expirer. Non. Il y a à chaque instant les deux mouvements. Il nous faut donc respirer, et on dit que l'apostolat, la mission, c'est la respiration de la vie intérieure. Donc je nous pose une question, êtes-vous vraiment missionnaire ? Avez-vous le souci chaque jour de savoir si les gens que vous rencontrez vont rencontrer le Christ ? Est-ce que c'est un souci qui vous taraude ou pas ? Et ça, c'est la prise de température de notre christianisme. On souligne que le bien, c'est un adage des philosophes, le bien est diffusif de soi. Le bien est diffusif de soi, par essence. Je lis là un passage de Benoît XVI qui nous dit « L'Antiquité avait, à propos de la bonté, une expression. Bonum est diffusivum sui. Le bien se communique. Cela appartient à l'essence même du bien de se communiquer et de s'étendre. Ainsi, puisque Dieu est bonté, il est communication de bonté, il veut communiquer, il crée parce qu'il veut nous communiquer sa bonté et nous rendre bons et saints. » Aujourd'hui, l'Évangile nous donne encore un motif de méditation. Dans l'Évangile d'aujourd'hui de Saint-Luc, vous avez le Seigneur qui nous envoie et qui vous envoie sans bourse, ni sac, ni sandales. Alors, il y a un père de l'Église, saint Ambroise de Milan, qui fait un commentaire sur le ni sandales. Pourquoi il nous envoie sans sandales ? S'il faut marcher beaucoup, pourquoi il ne faut pas mettre des sandales ? Et il dit la chose suivante. Il dit, c'est un écho de l'Ancien Testament, quand Moïse rentre devant le buisson ardent, Dieu lui dit « Retire tes sandales, car ce lieu est saint. » Et saint Ambroise de conclure. « Donc, quand Dieu nous envoie en mission, allez, sans bâton, sans bourse, sans sandales, ça veut dire que la mission est un lieu saint et sacré. Quand vous approchez les personnes dans la journée que Dieu vous donne de croiser et de rencontrer, eh bien, alors, n'allez pas, dès demain, enlever les sandales chaque fois que vous allez rentrer au bureau, au travail. Non, ce n'est pas ça qui vous est demandé. Mais souvenez-vous que vous rentrez dans une zone sainte, une zone sacrée. Alors d'abord, elle est déjà sainte et sacrée parce que la personne que vous allez rencontrer est à l'image de Dieu. Ensuite, éventuellement, si elle est baptisée et confirmée, eh bien cette sainteté ne cesse d'augmenter. Et puis, si cette personne n'est pas à votre goût assez sainte. Bon, d'abord, remettez-vous vous-même en cause en vous disant « et moi ». Et deuxièmement, n'oubliez pas la grandeur de votre vocation. Dites-vous « c'est moi qui dois apporter la sainteté à cette personne. Je suis en train de faire un acte sacré ». Vous voyez, donc ça veut dire que l'envoi en mission est tout à fait lié à la vie intérieure. Je rentre en zone sacrée, je rentre dans le Saint des Saints. voyez, on aurait tendance, nous, à séparer les deux. Bon, la prière, il faut distinguer, il y a des moments de prière stricto sensu et des moments d'apostolat stricto sensu. Mais la prière est déjà remplie de tous les visages que nous rencontrons dans la journée, et nous les présentons au Seigneur, et l'apostolat et la journée et le travail sont l'entrée dans un sanctuaire. Le sanctuaire où Dieu réside, puisque Dieu veut résider en chacun et chacune d'entre nous. Conséquence, je voudrais souligner quelques spécificités du laïc disciple missionnaire. Alors d'abord, le laïc rend l'Église, petit a, petit 1 si vous voulez, le laïc rend l'Église présente au monde et le monde présent à l'Église. Et pour vous dire que ce n'est pas tout à fait nouveau, j'ai trouvé une citation de Pie XII. Les fidèles laïcs, je vous l'ai mis, cette citation. Les fidèles laïcs se trouvent sur la ligne la plus avancée de la vie de l'Église. Par eux, l'Église est le principe vital de la société. C'est pourquoi eux, surtout, doivent avoir une conscience toujours plus claire, non seulement d'appartenir à l'Église, mais d'être l'Église. C'est-à-dire la communauté des fidèles sur la terre, sous la conduite du chef commun, le pape, et des évêques en communion avec lui. Ils sont l'Église. Donc vous apportez l'Église dans le monde par votre style. Vous savez, je crois que c'est Bernanos qui disait « Le surnaturel, la grâce, se couche dans le lit de camp du naturel. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Bernanos qui disait ça. Ça veut dire que le meilleur moyen d'évangéliser, c'est d'aller dans les lieux naturels de vie des gens. Ça veut dire qu'il faut pouvoir rendre l'Église présente là où les gens œuvrent, vivent, travaillent, aiment, souffrent. Et qui peut faire cela, si ce n'est le laïc, celui qui est à l'hôpital auprès de celui qui souffre, dans son métier, par son métier, etc., etc. Le surnaturel, la grâce, se couche dans le lit de camp du naturel. Voilà la meilleure évangélisation. Donc, vous devez aller au monde et évangéliser, non pas malgré le monde ou malgré votre condition de laïc. J'ai entendu quelqu'un me dire quand je suis rentré au séminaire, « Ah ben c'est génial, toi, au moins, tu vois, c'est clair, tu auras les moyens d'évangéliser, tu annonces la couleur, tu es séminariste, alors que pour nous laïcs, non, on ne peut pas. » Je dis, mais c'est faux ça, c'est complètement faux. C'est par votre condition de laïc que vous pouvez évangéliser. Vous n'évangélisez pas malgré vous. Vous n'êtes pas des malgré nous de l'évangélisation. Petit 2, le laïc ne doit surtout pas être clérical. Bon, faut-il se dépouiller de sa peau de laïc pour faire de l'apostolat? Faut-il imiter les curés, ou les religieux, ou les religieuses? Il y a parfois des laïcs qui se sentent obligés, pour dire qu'ils sont en mission, de copier ou d'imiter les religieux ou les religieuses. Bon. Alors, faut-il, pour être un saint laïc et un apôtre laïc, faut-il devenir, excusez-moi pour ceux qui œuvrent dans ce que je vais citer maintenant, c'est de l'humour, hein. Faut-il systématiquement devenir une punaise de sacristie, une grenouille de bénitier, une sardine de salle paroissiale, une araignée de presbytère, une fourmi de service diocésain? Bon. C'est avec humour, parce qu'il faut, heureusement, cela. Si on n'avait pas toutes ces personnes bénévoles pour faire cela, alors où irions-nous? Mais ce que je veux dire, c'est que faut-il à tout prix ou seulement être cela, et puis même dans la vie de quelqu'un qui est engagé dans un service paroissial, l'horizon de son apostolat s'arrêterait-il à son apostolat paroissial? Certainement pas, heureusement. C'est ce que dit le Concile. Et le monde d'abord, et ensuite la coopération à l'apostolat des paroisses ou des diocèses. Bref, il ne faut pas se défaire de sa peau de laïc pour être vraiment un évangélisateur dans le monde. Bref, un laïc, selon Vatican II, ça n'est pas un laïc qui se met à imiter un religieux ou un curé. Vous savez, c'est un peu comme le féminisme. Une femme libérée, c'est pas une femme qui se met à imiter les hommes. C'est une femme qui est vraiment femme. Eh bien, un laïc libéré et accompli, c'est pas un laïc qui se met à imiter les curés ou les religieux. C'est un laïc pleinement laïc, qui doit le rester et l'être sans aucun complexe. Le pape François, encore une fois, a écrit là-dessus. contre ceux qui voudraient que, pour faire des bons laïcs, ben, les laïcs ne soient plus vraiment des laïcs, ils soient complètement cléricalisés et tout le temps, uniquement, en train de faire des tâches qui sont directement paroissiales ou diocésaines. C'est un peu comme les cow-boys disaient, un bon indien est un indien mort. Bon, ben, un bon laïc, ce serait un laïc mort, un laïc qui serait plus un laïc, quoi. Un laïc qui serait complètement cléricalisé. Bon. Alors le pape François, avec ses mots à lui, hein, a critiqué la tendance de certains prêtres ou laïcs qui veulent toujours tout cléricaliser. Dès qu'ils voient quelqu'un qui a une compétence ou autre, ils veulent à tout prix qu'ils mettent ses compétences au service d'un service paroissial. Alors oui, il en faut, je le répète encore une fois, mais ça n'est pas le seul et l'unique et le premier lieu du laïc. Je cite le pape François. Ce qui est embêtant, c'est que qu'il y a la proposition qui est de tout, de suite cléricalisée. C'est une erreur. Un bon laïc doit le rester. Continuer ainsi et grandir ainsi. Pour ma part, je considère que le cléricalisme empêche la croissance des laïcs. Mais c'est une tentation aussi des laïcs, car certains d'entre eux veulent être cléricalisés. Bon. Donc je leur ai dit, loin de moi l'idée de critiquer le fait de s'engager dans une paroisse, ça je crois que c'est indispensable, mais il faut le faire, premièrement, en gardant son style de laïc, et deuxièmement, en comprenant que cela ne doit pas changer et ne doit pas mettre de côté le fait qu'on est d'abord dans le monde. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Concile. Bien. Autre point, plus particulier pour l'apostolat du laïc dans le monde. C'est un appel à la liberté et à la responsabilité personnelle. J'entends parfois dire, quand j'étais curé, « Ah, dans tel lieu, il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas... Que fait la paroisse? Que fait l'Église ?» Ce à quoi je réponds, ben, « Que faites-vous? Est-ce que vous avez pris des initiatives ?» Pourquoi avoir le réflexe tout le temps de dire « Que fait le diocèse? Que fait la paroisse ?» Si le Concile vous enseigne que vous devez prendre des initiatives, que la source de votre apostolat, c'est votre baptême, et que tout l'apostolat ne dépend pas de la hiérarchie de la paroisse et du diocèse, mais que vous devez prendre des décisions vous-même, alors pourquoi demander tout à la paroisse? Je vais prendre une comparaison un peu forte. Totalement caricaturale. Bien. L'État soviétique, à la fin des années 80, en Russie, le citoyen lui demandait tout. Que fait l'État? Et on n'arrivait pas à imaginer qu'il puisse y avoir des initiatives privées, des entreprises, qui soient en dehors de la mission donnée par l'État ou organisée par l'État. C'était impensable, c'était presque un crime. Celui qui agissait ainsi en dehors de l'État, il était censé ne même pas agir pour la patrie ou pour la Russie. Bref, on accordait à l'État tout le pouvoir, au lieu de lui demander ses droits et ses devoirs régaliens. Vous savez qu'il y a des devoirs et des droits régaliens de l'État, par exemple. Battre monnaie, la justice, la police, la défense. Ça, il faut le demander à l'État. C'est l'État qui doit l'organiser. Ce n'est pas les citoyens de manière privée. Mais il y a plein d'autres choses que les citoyens doivent faire sans demander à l'État. Et l'État doit favoriser cela. Parmi ces choses-là, d'ailleurs, je signale, parce qu'on l'oublie souvent selon la loi naturelle, l'éducation et l'école. Les Français sont certains que l'éducation dépend de l'État. L'éducation et l'école ne sont pas un droit régalien de l'État. L'État peut et doit faire des écoles, c'est pas ce que je dis. Mais ça n'est pas un droit régalien au titre, par exemple, de l'armée ou de la justice. C'est donc aux citoyens de se bouger, de le faire. Eh bien, je fais un parallèle. Dans l'Église, les diocèses et les paroisses ont des droits et des devoirs régaliens qui appartiennent à la paroisse. Je pense que la paroisse, c'est tout le parcours catéchuménal et la préparation des sacrements. Donc, toute cette formation qui prépare au sacrement. C'est aussi l'unité par le sacrement de l'Eucharistie le dimanche. Donc on pourrait faire la liste de tout ce qui appartient comme droit régalien à la paroisse. Mais il y a tout un tas d'initiatives qui peuvent partir de laïcs et qui ne sont pas de ou dans la paroisse. Et ça, on n'est pas souvent habitué à cela. Alors, je prends quelques exemples pour que ce soit peut-être plus concret. C'est par exemple, c'est pas pour faire de la pub pour ça, mais je trouvais que c'était très bien, mais il peut y avoir plein d'initiatives. J'ai rencontré un groupe qui faisait un week-end qu'on appelle week-end père-fils. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Bon, c'est un week-end en montagne, fin août. Bon. Et il s'agit de partir 2-3 jours en montagne, c'est les papas avec leurs garçons, bon. Avant la rentrée, pour renforcer les liens entre les pères et les fils. Bon. Ben, il se trouve que les personnes qui ont lancé ça sont catholiques, sont chrétiennes, elles voulaient prier, elles veulent la messe, elles font appel à un prêtre. Alors, le risque, ce serait de dire tout de suite, ah ben, il faut cléricaliser. Il faut que ce soit reconnu, mais non. C'est une initiative de baptiser. Et au XXe siècle, vous avez plein de choses comme ça qui sont nées. Tiens, vous voulez un exemple célèbre, le scoutisme. Le scoutisme n'a pas été créé par la hiérarchie de l'Église catholique. Il est venu de qui ? De laïcs, de baptisés. Et ces laïcs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont exercé, avant le Concile Vatican II, leur droit à quoi ? À trouver une méthode d'éducation. C'est pas un dogme, on peut choisir la méthode que l'on veut. Il y en a qui sont faits pour cette méthode-là, d'autres pour d'autres méthodes. Ils ont fait cela, ils sont chrétiens, ils ont prié, ben ils ont le droit de prier, ils n'ont pas besoin d'un mandat, d'être estampillés ou d'avoir, d'appartenir à tel groupe pour prier. Le baptême leur demande de prier. Et à l'époque, avant le Concile Vatican II, certains mouvements que je ne citerai pas ont fait la guerre au scoutisme. Pourquoi ? Parce qu'ils leur disaient « Ah, mais vous n'êtes pas l'Église, vous n'êtes pas d'Église, vous manquez d'ecclésialité. Vous n'avez pas une démarche d'Église. » Ah bon ? Ben oui, parce que ce n'est pas la hiérarchie qui vous a mandaté. Ah mais, messieurs, dames, votre baptême vous mandate. Et l'ecclésialité, le caractère ecclésial d'une action, à quoi il tient ? Pas forcément au mandat, au sceau, non. Il tient au cœur. C'est-à-dire le fait de vivre la parole de Dieu. La lettre tue, l'esprit vivifie. Vous pouvez très bien avoir une action, une œuvre totalement chrétienne, sans avoir le badge ou l'estampille paroissiale ou diocésaine. C'est votre estampille, c'est votre baptême. Et il vous mandate sans arrêt. Donc vous pouvez faire cela. Je prends un autre exemple, l'arche de Jean Vanier. Est-ce que c'est la hiérarchie catholique qui l'a fondée ? Non. L'Arche de Jean Vanier n'est pas une association ou un mouvement d'église catholique. Est-ce que c'est pas catholique ? Est-ce que c'est pas chrétien ? Si, c'est drôlement chrétien, hein, les gens qui travaillent dedans. Vous voyez, on peut faire des œuvres chrétiennes et elles seront... Alors certains me disent, mais oui, mais qu'est-ce qui va te garantir que vraiment, dans ces mouvements, on observe la parole de Dieu, la doctrine de l'Église ? Je dis... La lettre tue, l'esprit vivifie. Celui qui veut vraiment vivre son baptême, vous laïcs engagés dans le monde, vous devez être extrêmement vigilant et honnête et fidèle à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes apôtre dans le monde que vous devez être plus lâche avec la parole de Dieu en disant « bon, je peux me permettre ». Non, ce n'est pas un apostolat par dépression ou de seconde zone. Vous êtes tout autant responsable de donner la parole de Dieu. Donc, le laïc n'est pas, excusez-moi l'expression, sous le coup du, ce que j'appellerais, le karaoké pastoral. Vous connaissez le karaoké ? Dans certains bars, on vous propose pour chanter, parce que les gens ne chantent plus beaucoup, autrefois on chantait beaucoup, hein, mais maintenant on chante moins, eh bien, on vous propose donc de vous accompagner par de la musique enregistrée, on vous réapprend à chanter. Eh bien, le laïc, on n'a pas à lui réapprendre à faire de l'apostolat. Il n'est pas dans leur karaoké pastoral. Il a tout en lui pour faire cet apostolat dans la vie de tous les jours. Autre caractéristique du disciple missionnaire dans le monde, vous devez avoir un cœur sacerdotal et une mentalité laïque. Vous êtes bien au cœur du monde, mais vous devez le sacerdotaliser, c'est-à-dire le sanctifier, de l'intérieur. Il vous faut matérialiser votre vie spirituelle et spiritualiser la vie matérielle. Il y a beaucoup de gens qui ont encore tendance à dire « qu'ils pourront commencer à se sanctifier quand ils auront fini leur journée. Alors, vous avez travaillé très lourdement aujourd'hui, vous rentrez, quand le travail est terminé, quand les enfants sont couchés, quand le mari est couché lui aussi, comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez commencer à prier, à vous occuper du Seigneur. Ainsi, ce serait une vision de la sainteté, de l'union au Christ, qui serait à côté, ou après, ou en dehors, ou au-dessus, ou en dessous, que sais-je, de la vie ordinaire. Alors que le Concile vous dit, c'est l'inverse. Toutes ces choses-là, c'est comme le tissage de votre vie. C'est pas à côté, en dehors, après, mais par et dans ces situations-là que vous pouvez vous sanctifier. Je me souviens, une fois, une discussion comme ça, avec ma sœur, on est très bavards tous les deux, et nous parlions de cette sanctification dans la vie ordinaire. Et puis, ça devait être minuit et demi, 1h du matin, j'étais chez ma sœur et mon beau-frère en Espagne, et puis elle me dit, bon, maintenant il est temps d'aller se coucher, très bien, moi je vais me coucher, je prends mon bréviaire, puis ben, je suis bien tranquille, je lis, il y avait un passage du livre d'Isaïe, et puis elle, bon, elle me dit, tiens, j'avais fait la leçon comme quoi un laïc doit prier aussi, ben, au moment où elle pouvait aller prier, il y avait le dernier, le bébé, qui se met à pleurer. Bon, elle me dit, ben, effectivement, ça c'est de la théorie, la pauvre, pour prier maintenant avec le bébé qui hurle, comment elle va faire, bon. Et puis, dans le livre d'Isaïe que j'étais en train de lire, il y a la phrase suivante. Comme une mère console son nourrisson sur ses genoux, il allait, ainsi Israël, moi le Seigneur, je te consolerai, je te prendrai sur mes genoux. Alors, je n'ai pas résisté, je suis allé lire cette phrase à ma sœur pour lui dire, regarde, voilà. Et elle me dit, désormais, chaque fois qu'elle aura à allaiter son enfant ou à le consoler, sur ses genoux la nuit, elle pensera à cela et elle sera en union avec le Seigneur. C'est par et dans la vie ordinaire que se rencontre Dieu. En fait, vous savez, le Seigneur, il n'est pas du genre à vous dire « va voir là-bas si j'y suis ». Il ne vous dit pas « c'est après votre jour de journée, après votre famille ou après votre époux, votre épouse ou vos enfants ». En fait, la sainteté du laïc, ce n'est pas une sainteté in vitro, qui serait rêvé, vous savez, dans une situation qui serait parfaite. Alors celle-là, vous pouvez toujours l'attendre. Hein. Par exemple, vous allez vous dire, tiens, à la retraite, ce sera parfait. J'aurai tout le temps. J'aurai plus de travail. Quand les enfants auront grandi, peut-être. Ben non, à la retraite, ils vous attendent d'autres choses, vous allez voir. Demandez à des retraités ici s'ils ne sont pas engagés dans plusieurs services. Donc, c'est par et dans ces choses-là qu'on se sanctifie. Sainteté in vivo et non pas in vitro. Sainteté par et dans, mais pas à côté et après. Bref, à chaque moment de la journée, même dans les moments difficiles, pensez à transformer les choses difficiles en cathéter, c'est-à-dire en une croix qui permettra de faire la connexion entre la grâce de Dieu et le monde que vous avez en face de vous. Quelqu'un demandait au père Sevin, comment dois-je vivre comme chrétien ? Et il répondait, tu dois vivre en état de messe. Tu dois tout faire passer dans la messe. Tu es un cathéter. C'est-à-dire que tu plonges les racines dans la vie ordinaire des gens, et puis tu fais passer cette vie dans le Seigneur et la vie du Seigneur chez les gens. Vous voyez que c'est par et dans, c'est pas après. La vie ordinaire, elle a l'avantage de présenter et d'honorer toutes les situations pour la sainteté. Dans la vie ordinaire, vous avez tous les ingrédients pour faire la cuisine de la sainteté. Toutes les difficultés de la vie, vous devez les voir de manière positive. Je me souviens, quand je m'entraînais en natation, à une époque, on avait inventé un instrument de torture pour progresser en natation. On nous attachait une mousse, alors on mettait une ceinture, un fil, une ficelle élastique, et puis une mousse au bout. Alors, elle était terrible, cette mousse était très perverse, parce que quand vous ne nagez pas assez fort, elle avait tendance à s'enfoncer, et donc à vous retenir fortement, et quand vous nagez en accélérant un peu, elle avait tendance à se remplir davantage d'eau. Voilà. Alors, ça, c'est une difficulté. On se dit, tiens, pourquoi se donner cette difficulté-là ? Parce que la difficulté entraîne chez nous des bienfaits collatéraux, et sont de muscler davantage les muscles qu'il faut pour les nageurs. Et bien les difficultés de la vie viennent muscler les muscles spirituels et les vertus, ça s'appelle, dont vous avez besoin. Toute situation est transformable. Toute situation peut être offerte à Dieu. Autre point, l'apostolat des laïcs dans le monde. Votre apostolat, il est incroyable. Il est merveilleux. Il est merveilleux parce que vous êtes aux prises directes avec le monde. Est-ce que vous connaissez la parabole des petits poissons ? Alors, les petits poissons, ils sont à l'embouchure des fleuves, ils regardent la plage et ils se disent « Oh, que la plage est propre, j'aimerais y aller. Oh, que l'eau est sale et polluée. » Normal, l'embouchure des fleuves, c'est un peu pollué. Le petit poisson, il voudrait sortir, aller ailleurs. Le laïc, parfois, il voudrait sortir de son milieu de vie et il dira au prêtre « Mon père, vous n'y êtes pas, c'est impossible d'évangéliser. Tout le monde s'en fiche. Je voudrais aller ailleurs évangéliser. Je voudrais fuir ailleurs. » Mais le petit poisson, s'il va sur la plage, il meurt. Ce n'est pas son lieu. Or, il existe des races de petits poissons, qu'on appelle petits poissons purificateurs. Ils ont un tube digestif qui leur permet d'avaler l'eau sale et de la recracher propre. Vous en avez dans les aquariums, vous savez, ils nettoient les parois. Le laïc, il est ainsi dans le monde. Quand il pense que ce monde est trop pollué pour lui, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, attention au jugement, mais aussi sachant discerner, effectivement, il y a des choses saines dans ce monde, eh bien, son rôle est de croire qu'il a un tube digestif, pardon Seigneur, pour le tube digestif spirituel, qui lui permet de sanctifier ce monde et de le renouveler. Et si vous me dites « je suis qu'une goutte d'eau dans l'océan », oui, acte de foi, dans cette goutte d'eau, il y a le Seigneur. Il y a le Seigneur qui se diffuse. Vous êtes, vous les laïcs, des sachets de thé dans le bouillonnement de ce monde. Et vous devez diffuser la bonne odeur du Christ. Si vous ne le faites pas, qui le fera ? Vous devez constamment regarder les autres en vous disant « Bon, ça va mal, ils sont loin de Dieu. » Oui, certes, c'est vrai. On l'avait déjà constaté. Mais j'aime bien cette expression. Pensez que les gens qui sont avec vous et en face de vous sont des rois en exil. Il y a un saint qui disait ça. Les êtres humains, depuis le péché originel, sont des rois en exil. Dieu va nous faire partager sa gloire, sa royauté, sa beauté, sa bonté et sa joie. Et le péché nous a éloignés de cela. Nous sommes des rois en exil. Et nous devons les ramener de l'exil. Et en le faisant, nous revenons nous-mêmes de l'exil. C'est un exil ou un exode permanent. Nous sommes des petits Moïse. Vous êtes des petits Moïse dans le monde. Des petits Moïse et vous avez la grâce d'État pour cela. C'est très grand ce que vous avez à vivre. Dites-vous que cette goutte d'eau que vous êtes est remplie. Même quand vous ne le voyez pas. Parce que vous et moi, nous sommes des éléphants dans des magasins de porcelaine. Nous ne voyons pas la porcelaine que Dieu met devant nous. Nous ne nous rendons pas compte. Imaginez, quand Jésus est né, qui avait les projecteurs de l'Empire braqués sur lui ? Personne. Et d'ailleurs, c'est intéressant, au même moment, l'empereur Auguste, pour une des rares fois, peut-être même une des premières fois, ce serait à vérifier, a voulu faire voter par le Sénat un titre supplémentaire pour lui, non seulement de César et d'Auguste, mais de Redemptor Mundi, de rédempteur du monde. Drôle d'idée qui est passée pour la première fois dans la tête d'un empereur. Or, le rédempteur du monde était en train de naître, méconnu, petite goutte dans l'océan de Bethléem, pendant que tous les projecteurs braqués sur le Sénat et sur Auguste pensaient que là était le salut du monde. Eh ben non. Le salut, il est caché. Il est là où on ne le voit pas. Et vous êtes appelés à ne pas baisser la garde, à le croire sans arrêt. Jamais vous décourager. Être semeur de paix et de joie partout. Oui, je vous pose une question. Est-ce que dans les milieux de vie, vous êtes tous les milieux de vie, dès que vous arrivez, vous pensez de manière positive en vous disant « C'est par moi ! Quel honneur que je ne mérite pas ! C'est par moi que cette personne va trouver le Christ !» Je n'ai pas à penser, vous voyez, karaoké pastoral ou soviétisme. Que fait l'État? Que fait l'Église? Est-ce qu'il y a des structures pour le faire de... Non, c'est ici et maintenant. La sainteté, c'est maintenant. La sanctification, c'est maintenant. À toi de jouer. Et si je ne le fais pas, malheur à moi si je n'évangélise pas, dit saint Paul. Si je veux être disciple, missionnaire, je dois penser que le disciple, c'est celui qui écoute, et le missionnaire, c'est celui qui parle. Or, je suis toujours disciple missionnaire dans la prière et dans l'apostolat. Parce que dans l'apostolat, j'écoute Dieu qui parle à travers les autres. Ça peut être le Christ souffrant qui crie « J'ai soif !» Un monde qui ne sait pas qu'il a soif de Dieu. Et je peux l'entendre. Si j'ai une vie intérieure, j'entendrai l'écho de Dieu dans les gens qui m'entourent. Mais je suis aussi celui qui dit la parole de Dieu. Rendez-vous compte au livre de la Genèse. Quand Dieu crée le monde, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit la parole. Et cela fut. Eh bien, dans l'apostolat de tous les jours, c'est pareil. Vous dites le Seigneur, par votre exemple, votre comportement, votre manière d'être, et puis aussi par l'annonce explicite quand c'est possible. Et en disant le Christ par votre vie, alors le Christ sera présent. Alors l'autre sera christianisé, christifié, je voudrais dire. Vous allez vous dire, bah, c'est un job en plus, voilà qu'il faut que je pense maintenant, là où je vais aller demain, qu'il me faut évangéliser cette personne. Mais ce n'est pas un travail en plus. C'est le sens même de la vie. C'est reposant. Tout ce que vous n'unissez pas à Dieu, c'est fatigant. Parce que vous le faites en dehors du sens que Dieu a donné au monde. Alors que tout ce que vous unissez à Dieu, cela est reposant. Finir sa journée en se disant, tiens, j'ai cousu avec une aiguille sans fil. J'ai travaillé, j'ai fait 12 heures de couture aujourd'hui, mais je n'avais pas mis le fil, je n'avais pas eu le temps de prier ou de penser à l'apostolat. Alors que si vous vous cassez la tête avec cette tâche en plus, mettre le fil de l'apostolat, de la sainteté, de la vie intérieure dans l'aiguille, alors vous allez unir votre journée à Dieu. Vous savez, souvent on est fatigué plus de ce qu'on n'a pas réussi à faire que de ce qu'on a fait. Faire de l'apostolat, ce n'est pas fatigant, c'est reposant. Parce que c'est donner le sens de notre vie, celui qui vient de Dieu, et qui va à Dieu. Donc il y a des travaux en plus qui ne sont pas fatigants, qui sont très reposants. Venez à moi, dit le Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Comment? En enlevant le poids du fardeau? Non. Car mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. En vous donnant en plus mon fardeau. Voilà comment on trouve le repos. En prenant le fardeau de l'apostolat et de la sainteté. Alors, dernier point avant la conclusion, il vous faut une sacrée vie intérieure. La prière du laïc, alors je ne vais pas faire le traité sur la prière, parce qu'il y en aurait pour des heures, mais je voudrais souligner quelques points particuliers de la prière d'un laïc, d'un disciple missionnaire. Cette prière, d'abord, du disciple missionnaire, c'est la prière de celui qui écoute Dieu, écoute Israël, Deutéronome, livre du Deutéronome. Qui écoute Dieu dire quoi? Dire que la lumière soit, la lumière fut. Que tu sois et tu fus. La lumière, elle est arrivée sans savoir qu'elle arrivait. Nous sommes arrivés sans savoir que nous arrivions. Je ne me souviens pas. Ventre de maman. Mais par contre, à chaque instant, nous continuons d'être en étant conscients que Dieu nous appelle, que l'acte de création, que Dieu qui nous crée en ce moment, là, il est en train de nous créer, est en train de nous faire être, de nous faire jaillir dans l'existence, eh bien, c'est Dieu qui est en train de dire que tu sois. Et moi, je dis, oui, amen, je veux être, je veux répondre à cela. Et Dieu attend toujours un oui, me voici, qui soit à la hauteur de son amour, de son espérance. On ne peut pas le dire tout seul, hein. Vous savez qu'on le dit uniquement par Jésus-Christ, par lui, avec lui et en lui. Ce amen à la gloire de Dieu. Question pour un champion. Connaissez-vous la première phrase du Christ dans le monde. Quelle est la première parole prononcée par Jésus-Christ ? Alors, ce n'est pas « are, comme quelqu'un me l'avait dit, c'est avant même, dans le ventre de Marie. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit « avant, en entrant dans le monde ». J'ai dit « me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». C'est-à-dire que le Jésus-Christ, dans le sein de Marie, répond à son Père qui appelle que tu sois, oui, me voici. Et il le dit avec son humanité, puisqu'il s'incarne, et nous pouvons le dire avec lui, par lui et en lui. Parce que je vous signale, et c'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous l'a dit, Dieu appelle l'humanité dans l'acte créateur, mais juste après le péché originel aussi. Souvenez-vous, Dieu se promenait dans le jardin. Et il disait, « Où es-tu ? Qu'as-tu fait ?» Et Adam ne répond pas. Ne répond pas à la hauteur de l'espérance de Dieu. Il attend, le Seigneur attend qu'il ait une réponse adéquate, amour pour amour, qu'il réponde vraiment à son dessein et à sa volonté. Cette réponse, il l'a. Quand Jésus, au nom de l'humanité, dans le ventre de Marie, dit, « Me voici. » Et nous vous disons cela. Me voici, à chaque instant de ma journée, me voici, je viens faire ta volonté. Alors vous, votre prière, je la comparerai à la spiritualité que j'appellerai la spiritualité du téléphone portable. Retenez cela, les laïcs doivent avoir pour spiritualité, les bénédictins ils ont aura et labora, prier, travail, les dominicains ils ont contemplé, transmettre les choses contemplées, ben, vous laïcs, vous avez la spiritualité du téléphone portable. Alors, Kézako. La spiritualité du téléphone portable, c'est la suivante. Alors, je ne l'ai pas inventé tout seul. C'est en parlant à des scouts, c'est un scout qui a bien écouté et qui a complété ma parabole. Je dis, voilà. Le téléphone portable, le soir, tu le charges. Si tu ne le charges pas, il ne fonctionne pas dans la journée. Bon, très bien. Et dans la journée, il se décharge. Nous, vous, laïque, vous devez bien vous charger le soir, le matin, dans la prière, pour pouvoir donner, pour pouvoir porter le Christ, pour pouvoir faire tout ce que j'ai dit ce soir. Alors le scout en question m'a dit, oui, mais en fait, pas tout à fait, parce que ce portable, dans la journée, bon, le portable celui-là, là, l'iPhone, là, lui, il se décharge. Mais le chrétien, il ne se décharge pas dans la journée. Il est comme un téléphone portable photovoltaïque. C'est-à-dire qu'il capte, il continue dans la journée de capter le Christ. Vous voyez, c'est de tout repos de chercher ou de vouloir mettre le Christ dans l'âme des autres. Vous le cherchez et vous le trouvez et vous le recevez dans la prière et vous continuez de le chercher, de l'amener, de le trouver dans l'apostolat. Vous le trouvez de plusieurs manières. Ça, c'est la spiritualité du laïc dans le monde. Donc, pour conclure, pour aller au monde en étant disciple missionnaire, il faut être à l'écoute et se recevoir de la parole de Dieu qui nous fait être à chaque instant et qui nous sanctifie à chaque instant. Il faut, nous, à notre tour, proclamer la parole de Dieu qui fait réexister les autres et qui les ressuscite. Que mon bureau soit chrétien. Et le bureau fut chrétien. Que mon quartier soit chrétien. Et le quartier fut chrétien. Il ne faut pas fuir comme les petits poissons qui voudraient aller sur la plage. Parce qu'on l'a tous, hein. La paroisse d'à côté, c'est mieux. Le bureau d'à côté, c'est mieux. Le travail d'à côté, c'est mieux. Pourquoi pas la famille d'à côté, c'est mieux, si tant qu'on y est. Non. C'est là où Dieu t'a semé, il te faut fleurir. Donc j'insiste beaucoup sur cela. Il faut être là, dans la discrétion, la vie intérieure, la foi, la fidélité. Je veux souligner quelque chose de très important parce que je pense que c'est gravissime dans la vie des paroisses. Et je le mets en dernier pour que ce soit bien retenu. Il y a une plaie, il y a un péché qui détruit l'apostolat, la sainteté, et qui détruit les paroisses ou tous les lieux de vie. c'est le jugement téméraire, la critique, la médisance. Elles sont absolument terribles. Elles font un mal fou. Retenez cet adage, si tu ne peux louer, quand tu n'arrives pas à dire du bien, tais-toi. Parce que c'est un cancer qui ronge de l'intérieur tout ce qui nous entoure et qui empêche l'édification de l'Église. Qu'est-ce que c'est dur de se taire quand on n'arrive pas à dire du bien. Si tu ne peux louer, bah tais-toi. Voilà. Et on devrait toujours se poser la question, quand on a quelque chose, une critique à faire, je crois que c'est Saint-Alphonse de Ligori, je ne suis pas sûr qu'il disait ça, quand tu fais une critique, pose-toi la question. À quoi ça sert pour la personne qui m'écoute et à quoi ça sert pour la personne que je critique? Si tu peux répondre, ça édifie la personne qui m'écoute et ça va faire du bien à la personne que je critique, alors vas-y, critique. Mais ça veut dire que tu es mandaté pour cela, que tu sais bienveillant, c'est parce que tu vas résoudre le problème, il y a des règles pour ça. Voilà. Donc, attention à cela, il nous faut être vigilants. Demandons donc à la Vierge Marie d'être disciple missionnaire, c'est-à-dire de nous recevoir de la parole de Dieu, à tel point qu'en elle, cette parole s'est faite chair. Le Verbe s'est penché, elle a tellement aimé, et elle a tellement aimé le Verbe, que le Verbe s'est fait chair en elle. En nous, il ne se fait pas chair, mais il se fait sanctification et présence, et ainsi, par l'Esprit Saint, nous pouvons répandre tout cela autour de nous. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu dépassé. Je vous remercie d'avoir été si attentif le soir. Merci beaucoup. J'avais promis que je répondrai aux questions s'il y en a. Donc, alors n'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, mal exprimées, mal expliquées, des choses contestables à contester, allez-y, je suis prêt. Alors, je passe le micro pour que tout le monde entende la question.
Vous avez mentionné tout à l'heure que pour la mission du laïc, donc on pouvait faire on devait faire des choses en dehors du diocèse et de la paroisse. Et vous avez donné des exemples comme le scoutisme ou les week-ends père-fils et autres. Oui. À l'inverse, j'ai pas noté, mais vous n'avez pas donné d'exemple où le laïc justement faisait des choses à l'intérieur de sa paroisse, on va dire, où il aurait pu. Enfin...
Alors ce soir, ce que je voulais souligner, c'est toujours pareil, c'est toujours caricatural, hein, c'est ce que le Concile dit par rapport à la spécificité du laïc, c'est-à-dire ce que vous avez de spécifique. Or, il n'est pas spécifique au laïc, d'accord, de participer à l'apostolat hiérarchique de l'Église. Ça n'est pas, je ne suis pas en train de dire que c'est mal ou qu'il ne faut pas le faire. Je dis que ce n'est pas sa spécificité. C'est comme si je disais, pour que vous ne soyez pas choqués, hein, la spécificité du prêtre, c'est d'être saint. Non, ce n'est pas sa spécificité. Là, on cherche ce qui est spécifique. Voilà. Ce qui va être spécifique, par contre, dans... quand le laïc participe à l'apostolat de la hiérarchie, donc le diocèse de la paroisse, c'est ce qu'il a en propre, ce qu'il va amener lui en tant que laïc. Voilà. Mais la spécificité du laïc en tant que laïc, et ça c'est pas une opinion, ça là je suis prêt à mettre, hein, c'est vraiment ce que le Concile enseigne, et c'est très important ce qu'on dit là, parce que on s'aperçoit que le laïc fera mieux certaines choses que... Mais par exemple, bon, sur le scoutisme, alors là je parle de l'origine, hein, du scoutisme, sur le scoutisme, il est clair que ce n'est pas l'Église dans sa hiérarchie qui l'a inventé, et on peut dire qu'elle ne l'aurait pas inventé, ben la preuve, parce qu'elle ne l'a pas inventé. C'est donc le charisme de certains laïcs, qui ont défini d'ailleurs le scoutisme de la manière suivante, le scoutisme c'est le civisme à l'école des bois, à l'école de la nature. Bon. Ben, ça, c'est génial. Tout le monde n'est pas fait pour, certains oui, mais ça relève du charisme, du service, de la spécificité du laïc. Alors après, évidemment, on pourrait parler, d'ailleurs dans les qualités que j'ai déclinées sur l'apostolat des laïcs, vous pouvez reprendre une grande partie de tous ces points et les appliquer pour le laïc qui est dans un service paroissial diocésain. Je pense depuis la vie intérieure, son style propre, le fait de ne pas être cléricalisé, le fait d'avoir... tout ce que j'ai dit là, vous pouvez... la médisance, n'en parle pas. Donc vous pouvez appliquer... et décliner tout cela à l'intérieur même d'un service paroissial. Ça va de soi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y a une question au fond.
Merci. Pour moi, la question, elle est un petit peu plus spécifique. On m'a demandé ça il n'y a pas longtemps aussi, enfin des laïcs, justement sur ce caractère spécifique des laïcs, qui est dans le monde, donc l'apostolat dans le monde. Et en même temps, le concile dit, ben voilà, il y a aussi une implication dans la paroisse, parfois. Un apostolat qui peut se faire, en plus. Enfin, en plus, et en plus, ou à quelles conditions, en fait, c'était plutôt là-dessus. Parce que on m'a posé ça comme question, jusqu'où l'apostolat des laïcs, dans la hiérarchie, vous voyez, de l'apostolat hiérarchique, eh ben, est conforme à leur nature et ne va pas jusqu'à dénaturer l'aspect spécifique de leur apostolat. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, oui.
Le discernement, est-ce que c'est pour un temps donné ? Est-ce qu'à partir du moment où ça met en danger l'apostolat premier dans leur famille, leur foyer, enfin tout ça. Vous voyez, les critères de discernement de comment ils s'engagent, est-ce que c'est nécessairement un engagement ? Parce que notre mère, l'Église, ça reste notre mère, et donc dans l'ordre de la charité aussi, c'est la personne la plus proche, enfin une des personnes les plus proches aussi. Mais voilà, enfin, c'est les critères de discernement entre ces deux apostolats, celui qui est en propre spécifique, et en même temps, on sait bien qu'on a besoin dans l'apostolat hiérarchique, jusqu'où eh ben, ce discernement se fait. Pour le laïc, comment il se fait et à quelles conditions ?
Alors, si l'Église, dans le Concile Vatican II, nous dit que ce qui est spécifique au laïc, c'est l'apostolat dans le monde, elle dit que le laïc, en outre, en plus, les mots exacts, je les ai mis dans le texte, peut s'engager, ou doit parfois s'engager dans l'apostolat, on va l'appeler collaboration de l'apostolat hiérarchique pour faire court, hein, c'est-à-dire la paroisse, et le diocèse, ça n'est pas spécifique, mais pourtant c'est pas secondaire. Parce que en faisant cela, le laïc apporte quelque chose, un style spécifique à lui-même. Et il va y avoir, en tant que laïc, et il va y avoir des critères de discernement ensuite, ça c'est sûr, évidemment. Alors là, on pourrait faire des critères, comme on fait des critères de discernement pour les nominations des clercs. Alors évidemment, dans ces critères-là, il y a ne pas s'approprier la mission, avoir les compétences requises, la formation, savoir qu'on est délégué et missionné pour cela. Et je lisais dans une lettre d'un évêque cet après-midi, lui pense que un apostolat d'un laïc dans la paroisse, il doit avoir un mandat de 3 ans renouvelable. Bon, alors 3 ans, c'est ce qui circule le plus dans les chaumières comme date, comme période. Bon, oui, je pense que si on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que peut-être c'est un bon critère de discernement. Autre chose encore, avoir le souci, quand on se réveille le matin, de dire, bon, et si ce soir je tombais malade ou je disparaissais, que va devenir le service que je rends ? Donc, d'appeler d'autres personnes, et puis de leur transmettre le fait qu'il faut être disponible à la formation. Ensuite, ne pas s'accaparer la charge. Bon, dans le document que je lisais d'un évêque cet après-midi, eh bien, il était dit que dans des paroisses, il y a des gens qui n'osent pas se proposer parce qu'ils disent « Ah, mais le service est pourvu, il est tellement bien pourvu, et je marche sur des œufs, je sais, tellement bien tenu que je n'ose pas me... » Bon, voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais ça, c'est... Mais ça, c'est là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Ça peut être pareil avec des prêtres. Hein. On peut avoir un prêtre qui, au bout de 30 ans, dit « Moi, je ne quitte pas cette paroisse. Hein. » Parce que maintenant, c'est moi qui ai tout fait. L'Église, elle est comme je veux. Le presbytère, il est comme je veux. Les mouvements, ils sont comme je veux. Tout est... Bon. Et en même temps, effectivement, bon, c'est le mandat de l'Église. Enfin, autre chose, il y a un droit dans l'Église. Ça, c'est hyper important. Le droit, on dit, le droit protège le faible. Parce que si chacun y va de son opinion... Alors, dans les matières qui sont libres, ça va très bien, mais il y a des choses où c'est le droit de l'Église qui sert toute la communauté. Donc, on doit l'observer, ce droit, et regarder un petit peu si la communauté, elle tourne sur elle-même, ou alors si elle est ouverte à l'Église universelle. Vous vous souvenez, Benoît XVI, condamnait beaucoup les célébrations où on a une auto-célébration. C'est-à-dire qu'on fabrique sa liturgie et on se célèbre soi-même. On célèbre des idées, des valeurs, des choses comme... Voilà. Et le pape François continue dans le même style. Lui, il dénonce souvent l'Église auto-référentielle. C'est-à-dire une communauté qui ne fait référence qu'à elle-même. Et ce que Benoît XVI dénonçait dans la liturgie comme déviation, François le dénonce dans la pratique de l'Église, en disant ben, « nous, on fait comme ceci, comme cela, mais quid du droit de l'Église et du mandat de l'Église ?» On est au service ensemble, laïcs et prêtres, ensemble devant Dieu, et tous à l'écoute de Dieu. Le prêtre, il est autant, sinon plus, enfin, en tout cas, il est à l'écoute de la parole de Dieu, c'est pas sa parole qu'il donne. C'est la parole de Dieu, c'est le magistère de l'Église. Et quand on s'engage dans l'Église, dans un service paroissial, eh bien on sait qu'on s'engage à ça, et c'est pas facile. Hein. On doit être prêt à faire face aux contestations, aux difficultés, aux remises en cause, parce que c'est pas soi que l'on prêche, c'est pas sa doctrine à soi. C'est pas ses idées. Elles peuvent être géniales, hein, mais enfin, voilà, parfois c'est hyper difficile de... voilà, moi j'ai un ami d'enfance il y a pas longtemps qui m'a demandé quelque chose qui dans l'Église ne peut pas se faire, et ça a été très dur. Voilà. Ben, il est allé trouver, voilà, à l'autre bout de la France, il a trouvé un diacre qui a accepté de faire ce que l'Église ne permet pas. Bon. Et moi, je trouve ça très difficile parce que ben, c'est un ami d'enfance, comment il me voit maintenant, etc. Mais ce n'est pas moi que je donne. Et je trouve que c'est très important de tenir dans ces cas-là. Alors, pour un laïc, ce n'est pas facile. Quand j'étais à Saint-Gaudens, il y avait beaucoup d'enterrements, il y avait des équipes de funérailles, et ben, mon chapeau aux laïcs qui étaient dans les équipes de funérailles, parce que combien de fois ils ont dû faire face à des difficultés, du genre, une des premières fois, une personne qui était dans une équipe funéraille m'appelle en catastrophe le soir, « Père, on a reçu des gens pour préparer un enterrement, vous savez ce qu'ils nous ont dit ?»« Non, dites-moi, Lise Marie, elle s'appelait. » Ils m'ont dit, surtout ne parlez pas de Dieu pendant l'enterrement. Bon, alors c'est difficile quand même de... Vous voyez, la pauvre, elle était estomaquée, et puis là, le curé n'était pas là pour... Bon, voilà. Et puis aussi, bon, les demandes un petit peu bizarroïdes, quoi. Bon, je sais pas, quand on vous demande de mettre, vous savez, une fois, là, c'est des laïcs qui ont eu ça aussi, à Saint-Gaudens, de mettre ACDC, groupe de rock, Hell's Bells, les cloches de l'enfer. Le morceau de musique, Hell's Bells, les cloches de l'enfer en chant d'entrée pour l'enterrement. Vous imaginez le curé, quand il dit non, j'allais dire c'est son job, on a l'habitude, il en prend plein la figure, allez, première station, le curé est crucifié, dès le début. Bon, non. Là, j'ai vu des laïcs prendre leurs responsabilités et commencer à expliquer pourquoi. Face à des gens qui étaient dans la douleur, hein, parce que c'était quand même le fils aîné qui était décédé dans un accident de la route et qui écoutait à ses décès, donc on comprend les choses. Et là, chapeau, parce que ces personnes ont tenu. Donc quand on s'engage, vous voyez, quand laïc s'engage ou dans un apostolat de la paroisse ou dans un apostolat dans le monde, il n'est pas un engagement second. Il n'y a pas de déperdition de chaleur, de sainteté et de vérité. Hein, vous n'apportez pas une vérité de seconde zone. Vous êtes en première ligne, disait Pie XII, et c'est repris dans le Concile Vatican II. Donc, moi je dis ça parce que comme ça, c'est beaucoup plus confortable pour les prêtres, on n'est pas tout seul. Et vous prenez avec nous. Dites pas quand il y a des questions difficiles, allez voir le curé. Voilà. C'est, même dans le monde, voilà, des gens vous abordent en disant, bon voilà, pourquoi ceci, pourquoi cela, l'église, c'est toujours pareil, patati, patata. Ouh, moi je suis, tu sais, non, moi je... Non, non, va voir le curé, tiens, voilà son numéro de téléphone. Et non, répondez, formez-vous, prenez quelques coups et évitez au curé d'en prendre. Et au vicaire aussi. Puisque c'est le vicaire qui pose la question, après il va m'en vouloir si j'ai rien dit. Voilà. Nous sommes ensemble, hein, disciples missionnaires, et ça veut dire des droits et des devoirs. Mais ça, c'est difficile. Je crois qu'on va arrêter là parce que l'heure est largement dépassée.
Votre premier devoir, ça sera de rayonner de ce soir, de dire ce que vous avez entendu autour de vous. Être disciple, on prie, missionnaire, on proclame à temps et à contre-temps, ça sera une de vos missions. Même si on a la chance, ça marche, de l'avoir enregistré. Donc on va le mettre sur le site le plus rapidement possible pour que les gens puissent entendre cette ce complément qui a été apporté, donc théologiquement, spirituellement aussi, avec la parole de Dieu et la pastorale. J'espère que vous avez senti l'ancien curé qu'il a été, l'ancien excellent curé qu'il a été, et il a apporté aussi toute la richesse de son expérience de curé. Donc, un grand merci, en tout cas, vous voyez, ce projet pastoral, que chacun prenne sa place, prêtre et laïc, ensemble, mais chacun dans sa spécificité. Et c'est ça, je crois, nous croyons, qu'il faut redécouvrir, réapprofondir. En tout cas, c'est le projet pastoral que nous lançons depuis une année maintenant sur la Sainte Colline. Et nous allons rendre grâce, puisque nous aimons beaucoup prier, à travers les complis. Tu diras les horizons finales. J'arrête.